Chapitre 10 Lettre de deux romanciers. Tandis que Frédéric Chopin vivait en l'année 1837 la lente décomposition de son amour, George Sand était retourné dans son petit château de Nohant. Elle y passa de longs mois seule avec ses enfants et son travail. L'été lui amena le ménage Liszt, d'Agou, des nuits musiciennes, de nouveaux rêves de bonheur. Puis sa mère mourut brusquement et il fallut rentrer à Paris tandis que la comtesse et Franz prenaient la route d'Italie. Elle forma le projet de les y rejoindre, mais en fut retenue par une simple inclination subite pour le nouveau précepteur de ses enfants, Félicien Malfille. La rupture avec Michel de Bourges saignait encore faiblement, mais Georges sentait qu'elle avait enfin terrassé le dragon, et que cet attachement, plus tenace qu'elle ne l'avait imaginé, allait être guéri par une affection douce, moins enthousiaste, moins âpre aussi, et qu'elle espérait durable. Elle se trompait. 6 mois suffirent pour tarir cette source à fleur de terre. Elle eut pitié néanmoins de cet amant un peu fade et qui n'intéressait point ses entrailles. Pendant quelques mois encore, elle le traîna dans ses bagages entre Paris, Fontainebleau et Nohant. En janvier de 1838, le grand Balzac tomba un beau jour dans cette campagne et y demeura quelques jours. Les deux romanciers passèrent les nuits en bavardage et en confidence. Puis Balzac rédigea pour la comtesse Hanska ses impressions encore chaudes. Ouvrez les guillemets. J'ai abordé le château de Nohant, le samedi gras, vers 7h30 du soir, et j'ai trouvé la camarade George Sand dans sa robe de chambre, fumant un cigare après le dîner au coin de son feu, dans une immense chambre solitaire. Elle avait de jolies pantoufles jaunes ornées d'effilés, des bas coquets et un pantalon rouge. Voilà pour le moral. Au physique, elle avait doublé son menton comme un chanoine. Elle n'a pas un seul cheveu blanc malgré ses effroyables malheurs. Son teint bistré n'a pas varié. Ses beaux yeux sont tout aussi étincelants. Elle a l'air tout aussi bête quand elle pense, car, comme je lui ai dit après l'avoir étudiée, toute sa physionomie est dans l'œil. Elle est à Nohant depuis 1 an, fort triste et travaillant énormément. Elle mène à peu près ma vie. Elle se couche à 6h du matin et se lève à midi. Moi, je me couche à 6h du soir et me lève à minuit. Mais naturellement, je me suis conformé à ses habitudes, et nous avons, depuis 3 jours, bavardé depuis 5h du soir, après le dîner, jusqu'à 5h du matin. En sorte que je l'ai plus connue et réciproquement dans ces 3 causeries que pendant les 4 années précédentes où elle venait chez moi quand elle aimait Jules Sandeau et que quand elle a été liée avec Musset. Il était assez utile que je la visse, car nous nous sommes fait nos mutuelles confidences sur Jules Sandeau. Elle a cependant été encore plus malheureuse avec Musset, et la voilà dans une profonde retraite, condamnant à la fois le mariage et l'amour, parce que, dans l'un et l'autre état, elle n'a eu que des déceptions. Elle est comme un homme de 20 ans, moralement, car elle est chaste, prude, et n'est artiste qu'à l'extérieur. Elle fume démesurément. Elle joue peut-être un peu trop à la princesse, et je suis convaincu qu'elle s'est peinte fidèlement dans la princesse du secrétaire intime. Elle sait et dit d'elle-même ce que j'en pense, sans que je le lui ai dit, qu'elle n'a ni la force de conception, ni le don de construire des plans, ni la faculté d'arriver au vrai, ni l'art du pathétique, mais que sans savoir la langue française, elle a le style, c'est vrai. Elle prend assez comme moi sa gloire en raillerie, a un profond mépris pour le public, qu'elle appelle « jumento ». Je vous raconterai les immenses et secrets dévouements de cette femme pour ces 2 hommes, et vous vous direz qu'il n'y a rien de commun entre les anges et les démons. Toutes les sottises qu'elle a faites sont des titres de gloire aux yeux des âmes belles et grandes. Enfin, c'est un homme, et d'autant plus un homme qu'elle veut l'être, qu'elle est sortie du rôle de femme et qu'elle n'est pas femme. La femme attire et elle repousse, et comme je suis très homme, si elle me fait cet effet-là, elle doit le produire sur les hommes qui me sont similaires. Elle sera toujours malheureuse. Ainsi, elle aime maintenant un homme qui lui est inférieur, et dans ce contrat-là, il n'y a que désenchantement et déception pour une femme qui a une belle âme. Il faut qu'une femme aime toujours un homme qui lui soit supérieur, ou qu'elle y soit si bien trompée, que ce soit comme si ça a été. Je n'ai pas été impunément à Nohant. J'en ai rapporté un énorme vice. Elle m'a fait fumer un hookah et dû l'attaquer. C'est devenu tout à coup un besoin pour moi. » Fermez les guillemets. L'œil et l'oreille de Balzac ne se trompaient pas dans leur diagnostic. Et cependant, il ne pouvait ni tout voir ni tout entendre ce qui se passait derrière les vitres de cet être, plus compliqué qu'il ne croyait. Ce printemps de 1838 faisait germer une fois de plus la violette sombre et forte d'un nouvel amour. George Sand était allée plusieurs fois à Paris. Elle avait revu Chopin, et le drame du plaisir, des difficultés, des douleurs, s'était noué entre eux. Sand et Chopin sortaient tous deux de trop de souffrances pour ne pas ouvrir la nouvelle page de leur histoire avec méfiance. Mais chez Chopin, tout est resté enseveli dans le silence, et sa musique seule en a préservé l'interrogation ou les élans secrets. Quant à Georges, le premier tintement de sa nouvelle passion se retrouve dans une lettre à son amie Marliani, en date du 23 mai, où elle dit
« Chère belle, j'ai reçu vos lettres et je tarde à vous répondre à fond, parce que vous savez que le temps est variable dans la saison des amours. On dit beaucoup de oui, de non, de si, de mais dans une semaine. Et souvent on dit le matin « Décidément, ceci est intolérable », pour dire le soir « En vérité, c'est le bonheur suprême. J'attends donc pour vous écrire tout de bon que mon baromètre marque quelque chose, sinon de stable, du moins de certain pour un temps quelconque. Je n'ai pas le plus petit reproche à faire, mais ce n'est pas une raison pour être contente. »
Toutefois, ce n'est pas à Madame Marliani qu'elle montra les singulières et si intéressantes fluctuations de son baromètre sentimental, mais au comte Albert Crisimala, un ami intime de Chopin. Or, voici ce qu'elle lui écrivit au début de cet été-là.
« Jamais il ne peut m'arriver de douter de la loyauté de vos conseils, cher ami, qu'une pareille crainte ne vous vienne jamais. Je crois à votre évangile sans le bien connaître et sans l'examiner, parce que du moment qu'il a un adepte comme vous, il doit être le plus sublime de tous les évangiles. Soyez bénis pour vos avis, et soyez en paix sur mes pensées. Posons nettement la question une dernière fois, parce que de votre dernière réponse sur ce sujet dépendra toute ma conduite à venir. Et puisqu'il fallait en arriver là, je suis fâchée de ne pas avoir surmonté la répugnance que j'éprouvais à vous interroger à Paris. Il me semblait que ce que j'allais apprendre pâlirait mon poème. Et en effet, le voilà qui a rembruni, ou plutôt qui pâlit beaucoup. Mais qu'importe, votre évangile est le mien quand il prescrit de songer à soi en dernier lieu, et de n'y pas songer du tout quand le bonheur de ceux que nous aimons réclame toutes nos puissances. Écoutez-moi bien et répondez clairement, catégoriquement, nettement. Cette personne qui le veut, ou doit, ou croit devoir aimer, est-elle propre à faire son bonheur, ou bien doit-elle augmenter ses souffrances et ses tristesses? Je ne demande pas s'il l'aime, s'il en est aimé, si c'est plus ou moins que moi. Je sais à peu près, par ce qui se passe en moi, ce qui doit se passer en lui. Je demande à savoir laquelle de nous deux il faut qu'il oublie ou abandonne pour son repos, pour son bonheur, pour sa vie enfin, qui me paraît trop chancelante et trop frêle pour résister à de grandes douleurs. Je ne veux point faire le rôle du mauvais ange, je ne suis pas le Bertram de Meyerbeer, et je ne lutterai point contre l'ami d'enfance, si c'est une belle et pure Alice. Si j'avais su qu'il y avait un lien dans la vie de votre enfant, un sentiment dans son âme, je ne me serais jamais penchée pour respirer un parfum réservé à un autre autel. De même, lui, sans doute, se fût éloigné de mon premier baiser, s'il eût su que j'étais comme mariée. Nous ne sommes point trompés l'un l'autre, nous nous sommes livrés au vent qui passait et qui nous a emportés tous deux dans une autre région pour quelques instants. Mais il n'en faut pas moins que nous redescendions ici-bas, après cet embrassement céleste et ce voyage à travers l'Empyrée. Pauvres oiseaux, nous avons des ailes, mais notre nid est sur la terre, et quand le chant des anges nous appelle en haut, le cri de notre famille nous rappelle en bas. Moi, je ne veux point m'abandonner à la passion, bien qu'il y ait au fond de mon cœur un foyer encore bien menaçant parfois. Mes enfants me donneront la force de briser tout ce qui m'éloignerait d'eux ou de la manière d'être qui est la meilleure pour leur éducation, leur santé, leur bien-être, etc. Ainsi, je ne puis pas me fixer à Paris à cause de la maladie de Maurice, etc., etc. Puis, il y a un être excellent, parfait, sous le rapport du cœur et de l'honneur, que je ne quitterai jamais, parce que c'est le seul homme qui, étant avec moi depuis près d'un an, ne m'ait pas une seule fois, une seule minute, fait souffrir par sa faute. C'est aussi le seul homme qui se soit donné entièrement et absolument à moi, sans regret pour le passé, sans réserve pour l'avenir. Puis, c'est une si bonne et si sage nature que je ne puisse l'amener avec le temps à tout comprendre, à tout savoir. C'est une cire malléable sur laquelle j'ai posé mon sceau, et quand je voudrais en changer l'empreinte, avec quelques précautions et quelques patience, j'y réussirais. Mais aujourd'hui, cela ne se pourrait pas, et son bonheur m'est sacré. Voilà donc pour moi, engagé comme je le suis, enchaîné d'assez près pour des années, je ne puis désirer que notre petit rompe de son côté les chaînes qui le lient. S'il venait mettre son existence entre mes mains, je serais bien effrayé, car, en ayant accepté une autre, je ne pourrais lui tenir lieu de ce qu'il aurait quitté pour moi. Je crois que notre amour ne peut durer que dans les conditions où il est né, c'est-à-dire que de temps en temps, quand un bon vent nous ramènera l'un vers l'autre, nous irons encore faire une course dans les étoiles, et puis nous nous quitterons pour marcher à terre, car nous sommes les enfants de la terre, et Dieu n'a pas permis que nous nous y accomplissions notre pèlerinage côte à côte. C'est dans le ciel que nous devons nous rencontrer, et les instants rapides que nous y passerons seront si beaux qu'ils vaudront toute une vie passée ici-bas. Mon devoir est donc tout tracé, mais je puis, sans jamais l'abjurer, l'accomplir de deux manières différentes. L'une serait de me tenir le plus éloigné possible de C, Chopin, de ne point chercher à occuper sa pensée, de ne jamais me retrouver seul avec lui. L'autre serait au contraire de m'en rapprocher autant que possible, sans compromettre la sécurité de M, ma fille, de me rappeler doucement à lui dans ses heures de repos et de béatitude, de le serrer chastement dans mes bras quelquefois, quand le vent céleste voudra bien nous enlever et nous promener dans les airs. La première manière sera celle que j'adopterai si vous me dites que la personne est faite pour lui donner un bonheur pur et vrai, pour l'entourer de soins, pour arranger, régulariser, calmer sa vie. Si enfin il s'agit pour lui d'être heureux par elle, et que j'y sois un empêchement. Si son âme excessivement, et peut-être follement, peut-être sagement, scrupuleuse, se refuse à aimer deux êtres différents, de deux manières différentes, si les 8 jours que je passerai avec lui dans une saison doivent l'empêcher d'être heureux dans son intérieur le reste de l'année, alors oui, alors je vous jure que je travaillerai à me faire oublier de lui. La seconde manière, je la prendrai si vous me dites de deux choses l'une, ou que son bonheur domestique peut et doit s'arranger avec quelques heures de passion chaste et de douce poésie, ou que le bonheur domestique lui est impossible, et que le mariage ou quelque union qui y ressemblât serait le tombeau de cette âme d'artiste. Qu'il faut donc l'en éloigner à tout prix, et l'aider même à vaincre ses scrupules religieux. C'est un peu là, je dirais où, que mes conjectures aboutissent. Vous me direz si je me trompe. Je crois la personne charmante, digne de tout amour et de tout respect, parce qu'un être comme lui ne peut aimer que le pur et le beau. Mais je crois que vous redoutez pour lui le mariage, le lien de tous les jours, la vie réelle, les affaires, les soins domestiques, tout ce qui, en un mot, semble éloigné de sa nature et contraire aux aspirations de sa muse. Je le craindrais aussi pour lui. Mais à cet égard, je ne puis rien affirmer et rien prononcer, parce qu'il y a bien des rapports sous lesquels il m'est absolument inconnu. Je n'ai vu que la face de son être qui est éclairée par le soleil. Vous fixerez donc mes idées sur ce point. Il est de la plus haute importance que je sache bien sa position, afin d'établir la mienne. Pour mon goût, j'avais arrangé notre poème dans ce sens, que je ne saurais rien, absolument rien de sa vie positive, ni lui de la mienne, qu'il suivrait toutes ses idées religieuses, mondaines, poétiques, artistiques, sans que j'eusse jamais à lui en demander compte, et réciproquement. Mais que partout, en quelque lieu et à quelque moment de notre vie que nous vinssions à nous rencontrer, notre âme serait à son apogée de bonheur et d'excellence. Car, je n'en doute pas, on est meilleur quand on aime d'un amour sublime, et loin de commettre un crime, on s'approche de Dieu, source et foyer de cet amour. C'est peut-être là, en dernier ressort, ce que vous devriez tâcher de lui faire bien comprendre, mon ami, et, en ne contrariant pas ses idées de devoir, de dévouement et de sacrifice religieux, vous mettriez peut-être son cœur plus à l'aise. Ce que je craindrais le plus au monde, ce qui me ferait le plus de peine, ce qui me déciderait même à me faire morte pour lui, ce serait de me voir devenir une épouvante et un remords dans son âme. Non, je ne puis, à moins qu'elle ne soit funeste pour lui en dehors de moi, me mettre à combattre l'image et le souvenir d'une autre. Je respecte trop la propriété pour cela, ou plutôt, c'est la seule propriété que je respecte. Je ne veux voler personne à personne, excepté les captifs au geôlier et les victimes au bourreau, et la Pologne à la Russie, par conséquent. Dites-moi si c'est une Russie dont l'image poursuit notre enfant. Alors je demanderai au ciel de me prêter toutes les séductions d'Armide pour l'empêcher de s'y jeter. Mais si c'est une Pologne, laissez-le faire. Il n'y a rien de tel qu'une patrie, et quand on en a une, il ne faut pas s'en faire une autre. Dans ce cas, je serai pour lui comme une Italie qu'on va voir, où l'on se plaît au jour du printemps, mais où l'on ne reste pas, parce qu'il y a plus de soleil que de lits et de tables, et que le confortable de la vie est ailleurs. Pauvre Italie, tout le monde y songe, la désire ou la regrette. Personne n'y peut demeurer, parce qu'elle est malheureuse et ne saurait donner le bonheur qu'elle n'a pas. Il y a une dernière supposition qu'il est bon que je vous dise. Il serait possible qu'il n'aimât plus du tout l'ami d'enfance, et qu'il eût une répugnance réelle pour un lien à contracter, mais que le sentiment du devoir, l'honneur d'une famille, que sais-je, lui commandasse un rigoureux sacrifice de lui-même. Dans ce cas-là, mon ami, soyez son bon ange. Moi, je ne puis guère m'en mêler. Mais vous le devez. Sauvez-le des arrêts trop rigoureux de sa conscience. Sauvez-le de sa propre vertu. Empêchez-le à tout prix de s'immoler, car dans ces sortes de choses, s'il s'agit de mariage ou de ces unions qui, sans avoir la même publicité, ont la même force d'engagement et la même durée, dans ces sortes de choses, dis-je, le sacrifice de celui qui donne son avenir n'est pas en raison de ce qu'il a reçu dans le passé. Le passé est une chose appréciable et limitée. L'avenir, c'est l'infini, parce que c'est l'inconnu. L'être qui, en retour d'une certaine somme connue de dévouement, exige le dévouement de toute une vie future, demande une chose inique. Et si celui à qui on le demande est bien embarrassé pour défendre ses droits, en satisfaisant à la générosité et à l'équité, c'est à l'amitié qu'il appartient de le sauver, et d'être juge absolu de ses droits et de ses devoirs. Soyez ferme à cet égard. Et soyez sûr que moi, qui déteste les séducteurs, moi, qui prends toujours parti pour les femmes outragées ou trompées, moi, qu'on croit l'avocat de mon sexe et qui me pique de l'être, quand il faut, j'ai pourtant rompu de mon autorité de sœur et de mère et d'amie plus d'un engagement de ce genre. J'ai toujours condamné la femme quand elle voulait être heureuse au prix du bonheur de l'homme. J'ai toujours absous l'homme quand on lui demandait plus qu'il n'est donné à la liberté et à la dignité humaine d'engager. Un serment d'amour et de fidélité est un crime ou une lâcheté quand la bouche prononce ce que le cœur désavoue. Et on peut tout exiger d'un homme, excepté une lâcheté et un crime. Or ce cas-là, mon ami, c'est-à-dire hors le cas où il voudrait accomplir un sacrifice trop rude, Je pense qu'il faut ne pas combattre ses idées et ne pas violenter ses instincts. Si son cœur peut, comme le mien, contenir deux amours bien différents, l'un qui est pour ainsi dire le corps de la vie, l'autre qui en sera l'âme, ce sera le mieux, parce que notre situation sera à l'avenant de nos sentiments et de nos pensées. De même qu'on n'est pas tous les jours sublime, on n'est pas tous les jours heureux. Nous ne nous verrons pas tous les jours, nous ne posséderons pas tous les jours le feu sacré, mais il y aura de beaux jours et de saintes flammes. Il faudrait peut-être aussi songer à lui dire ma position à l'égard de M, ma fille. Il est à craindre que, ne la connaissant pas, il ne se crée à mon égard une sorte de devoir qui le gêne et vienne à combattre l'autre douloureusement. Je vous laisse absolument le maître et l'arbitre de cette confidence. Vous la ferez si vous jugez le moment opportun, vous la retarderez si vous croyez qu'elle ajouterait à des souffrances trop fraîches. Peut-être l'avez-vous déjà faite. Tout ce que vous avez fait ou ferez, je l'approuve et le confirme. Quant à la question de possession ou de non-possession, cela me paraît une question secondaire à celle qui nous occupe maintenant. C'est pourtant une question importante par elle-même. C'est toute la vie d'une femme, c'est son secret le plus cher, sa théorie la plus étudiée, sa coquetterie la plus mystérieuse. Moi, je vous dirai tout simplement, à vous, mon frère et mon ami, ce grand mystère sur lequel tous ceux qui prononcent mon nom font de si étranges commentaires. C'est que je n'ai là-dessus ni secret, ni théorie, ni doctrine, ni opinion arrêtée, ni parti pris, ni prétention de puissance, ni singerie de spiritualisme. Rien enfin d'arrangé d'avance, et pas d'habitude prise. Et je crois, pas de faux principes, soit de licence, soit de retenue. Je me suis beaucoup fié à mes instincts, qui ont toujours été nobles. Je me suis quelquefois trompé sur les personnes, mais jamais sur moi-même. J'ai beaucoup de bêtises à me reprocher, pas de platitude, ni de méchanceté. J'entends dire beaucoup de choses sur les questions de morale humaine, de pudeur et de vertu sociale. Tout cela n'est pas encore clair pour moi. Aussi n'ai-je jamais conclu à rien. Je ne suis pourtant pas insouciante là-dessus. Je vous confesse que le désir d'accorder une théorie quelconque avec mes sentiments a été la grande affaire et la grande douleur de ma vie. Les sentiments ont toujours été plus forts que les raisonnements, et les bornes que j'ai voulu me poser ne m'ont jamais servi à rien. J'ai changé 20 fois d'idée. J'ai cru par-dessus tout à la fidélité. Je l'ai prêchée, je l'ai pratiquée, je l'ai exigée. On y a manqué, et moi aussi. Et pourtant je n'ai pas senti le remords, parce que j'avais toujours subi dans mes infidélités une sorte de fatalité, un instinct de l'idéal qui me poussait à quitter l'imparfait pour ce qui semblait se rapprocher du parfait. J'ai connu plusieurs sortes d'amour. Amour d'artiste, amour de femme, amour de sœur, amour de mère, amour de religieuse, amour de poète, que sais-je. Il y en a qui sont nés et morts en moi, le même jour, sans s'être révélés à l'objet qui les inspirait. Il y en a qui ont martyrisé ma vie et qui m'ont poussé au désespoir, presque à la folie. Il y en a qui m'ont tenu cloîtré durant des années dans un spiritualisme excessif. Tout cela a été parfaitement sincère. Mon être entrait dans ces phases diverses, comme le soleil, disait sainte Beuve, entre dans les signes du zodiaque. À qui m'aurait suivi en voyant la superficie ? J'aurais semblé folle ou hypocrite. À qui m'a suivi en lisant au fond de moi, j'ai semblé ce que je suis en effet, enthousiaste du beau, affamé du vrai, très sensible de cœur, très faible de jugement, souvent absurde, toujours de bonne foi, jamais petite ni vindicative, assez colère et, grâce à Dieu, parfaitement oublieuse des mauvaises choses et des mauvaises gens. Voilà ma vie, cher ami, vous voyez qu'elle n'est pas fameuse. Il n'y a rien à admirer, beaucoup à plaindre, rien à condamner par les bons cœurs. J'en suis sûr, ceux qui m'accusent d'avoir été mauvaise en ont menti, et il me serait bien facile de le prouver, si je voulais me donner la peine de me souvenir et de raconter. Mais cela m'ennuie, et je n'ai pas plus de mémoire que de rancune. Jusqu'ici, j'ai été fidèle à ce que j'ai aimé, parfaitement fidèle, en ce sens que je n'ai jamais trompé personne, et que je n'ai jamais cessé d'être fidèle sans de très fortes raisons, qui avaient tué l'amour en moi par la faute d'autrui. Je ne suis pas d'une nature inconstante, je suis au contraire si habituée à aimer exclusivement qui m'aime bien, si peu facile à m'enflammer, si habituée à vivre avec des hommes sans songer que je suis femme, que vraiment j'ai été un peu confuse et un peu consternée de l'effet que m'a produit ce petit être. Je ne suis pas encore revenue de mon étonnement, et si j'avais beaucoup d'orgueil, je serais très humiliée d'être tombée en plein dans l'infidélité de cœur, au moment de ma vie où je me croyais à tout jamais calme et fixée. Je crois que ce serait mal si j'avais pu prévoir, raisonner et combattre cette irruption. Mais j'ai été envahie tout à coup, et il n'est pas dans ma nature de gouverner mon être par la raison quand l'amour s'en empare. Je ne me fais donc pas de reproches, mais je constate que je suis encore très impressionnable et plus faible que je ne croyais. Peu importe, je n'ai guère de vanité. Ceci me prouve que je dois n'en avoir pas du tout, et ne jamais me vanter de rien en fait de vaillance et de force. Cela ne m'attriste que parce que voilà ma belle sincérité, que j'avais pratiquée si longtemps, et dont j'étais un peu fière, entamée et compromise. Je vais être forcée de mentir comme les autres. Je vous assure que ceci est plus mortifiant pour mon amour-propre qu'un mauvais roman ou une pièce sifflée. J'en souffre un peu. Cette souffrance est un reste d'orgueil, peut-être. Peut-être est-ce une voix d'en haut qui me crie qu'il fallait veiller davantage à la garde de mes yeux et de mes oreilles, et de mon cœur, surtout. Mais si le ciel nous veut fidèles aux affections terrestres, pourquoi laisse-t-il quelquefois les anges s'égarer parmi nous et se présenter sur notre chemin? La grande question de l'amour est donc encore soulevée en moi. Pas d'amour sans fidélité, disais-je il y a 2 mois, et il est bien certain, hélas, que je n'ai plus senti la même tendresse pour ce pauvre M, ma fille, en le retrouvant. Il est certain que depuis qu'il est retourné à Paris, vous devez l'avoir vu, au lieu d'attendre son retour avec impatience et d'être triste loin de lui, je souffre moins et respire plus à l'aise. Si je croyais que la vue fréquente de C, Chopin, dû augmenter ce refroidissement, je sens qu'il y aurait pour moi devoir à m'en abstenir. Voilà où je voulais en venir. C'est à vous parler de cette question de possession qui constitue dans certains esprits toute la question de fidélité. Ceci est, je crois, une idée fausse. On peut être plus ou moins infidèle, mais quand on a laissé envahir son âme et accordé la plus simple caresse, avec le sentiment de l'amour, l'infidélité est déjà consommée, et le reste est moins grave. Car qui a perdu le cœur a tout perdu. Il vaudrait mieux perdre le corps et garder l'âme tout entière. Ainsi, en principe, je crois qu'une consécration complète du nouveau lien n'aggrave pas beaucoup la faute. Mais en fait, il est possible que l'attachement devienne plus humain, plus violent, plus dominant, après la possession. C'est même probable, c'est même certain. Voilà pourquoi, quand on veut vivre ensemble, il ne faut pas faire outrage à la nature et à la vérité en reculant devant une union complète. Mais quand on est forcé de vivre séparé, sans doute il est de la prudence, par conséquent il est du devoir et de la vraie vertu, qui est le sacrifice, de s'abstenir. Je n'avais pas encore réfléchi à cela sérieusement. Et s'il eût demandé à Paris, j'aurais cédé, par suite de cette droiture naturelle qui me fait haïr les précautions les restrictions, les distinctions fausses et les subtilités, de quelque genre qu'elles soient. Mais votre lettre me fait penser à couler à fond cette résolution-là. Puis, ce que j'ai éprouvé de trouble et de tristesse en retrouvant les caresses de M, ma fille, ce qu'il m'a fallu de courage pour le cacher, m'est aussi un avertissement. Je suivrai donc votre conseil, cher ami. Puisse ce sacrifice être une sorte d'expiation de l'espèce de parjure que j'ai commis. Je dis sacrifice parce qu'il me sera pénible de voir souffrir cet ange. Il a eu jusqu'ici beaucoup de force, mais je ne suis pas un enfant. Je voyais bien que la passion humaine faisait en lui des progrès rapides et qu'il était temps de nous séparer. Voilà pourquoi, la nuit qui a précédé mon départ, je n'ai pas voulu rester avec lui, et je vous ai presque renvoyé. Et puisque je vous dis tout, je veux vous dire qu'une seule chose en lui m'a déplu. C'est qu'il avait eu lui-même de mauvaises raisons pour s'abstenir. Jusque-là, je trouvais beau qu'il s'abstint par respect pour moi, par timidité, même par fidélité pour une autre. Tout cela était du sacrifice, et par conséquent de la force et de la chasteté, bien entendu. C'était là ce qui me charmait et me séduisait le plus en lui. Mais chez vous, au moment de nous quitter, et comme il voulait surmonter une dernière tentation, il m'a dit deux ou trois paroles qui n'ont pas répondu à mes idées. Il semble faire fi à la manière des dévots, des grossièretés humaines, et rougir des tentations qu'il avait eues, et craindre de souiller notre amour par un transport de plus. Cette manière d'envisager le dernier embrassement de l'amour m'a toujours répugné. Si ce dernier embrassement n'est pas une chose aussi sainte, aussi pure, aussi dévouée que le reste, il n'y a pas de vertu à s'en abstenir. Ce mot d'amour physique dont on se sert pour exprimer ce qui n'a de nom que dans le ciel me déplaît et me choque comme une impiété et comme une idée fausse en même temps. Est-ce qu'il peut y avoir pour les natures élevées un amour purement physique et pour les natures sincères un amour purement intellectuel? Est-ce qu'il y a jamais d'amour sans un seul baiser et un baiser d'amour sans volupté? Mépriser la chair ne peut être sage et utile qu'avec les êtres qui ne sont que chair. Mais avec ce qu'on aime, ce n'est pas du mot mépriser, mais du mot respecter qu'il faut se servir quand on s'abstient. Au reste, ce ne sont pas là les mots dont il s'est servi. Je ne me les rappelle pas bien. Il a dit, je crois, que certains faits pouvaient gâter le souvenir. N'est-ce pas? C'est une bêtise qu'il a dite, et il ne le pense pas. Quelle est donc la malheureuse femme qui lui a laissé de l'amour physique de pareilles impressions? Il a donc eu une maîtresse indigne de lui, pauvre ange. Il faudrait pendre toutes les femmes qui avilissent aux yeux des hommes la chose la plus respectable et la plus sainte de la création. Le mystère divin, l'acte de la vie le plus sérieux et le plus sublime dans la vie universelle. L'aimant embrasse le fer. Les animaux s'attachent les uns aux autres par la différence des sexes. Les végétaux obéissent à l'amour. Et l'homme, qui seul sur ce monde terrestre, a reçu de Dieu le don de sentir divinement ce que les animaux, les plantes et les métaux sentent matériellement. L'homme chez qui l'attraction électrique se transforme en une attraction sentie, comprise, intelligente. L'homme seul regarde ce miracle qui s'accomplit simultanément dans son âme et dans son corps comme une misérable nécessité. Il en parle avec mépris, avec ironie ou avec honte. Cela est bien étrange. Il est résulté de cette manière de séparer l'esprit de la chair qu'il a fallu des couvents et des mauvais lieux. Voici une lettre effrayante. Il vous faudra 6 semaines pour la déchiffrer. C'est mon ultimatum. S'il est heureux ou doit être heureux par elle, laissez-le faire. S'il doit être malheureux, empêchez-le. S'il peut être heureux par moi, sans cesser de l'être par elle, moi je puis faire de même de mon côté. S'il ne peut être heureux par moi sans être malheureux avec elle, il faut que nous nous évitions et qu'il m'oublie. Il n'y a pas à sortir de ces quatre points. Je serai forte pour cela, je vous le promets, car il s'agit de lui. Et si je n'ai pas grande vertu pour moi-même, j'ai grand dévouement pour ce que j'aime. Vous me direz nettement la vérité. J'y compte et je l'attends. Il est absolument inutile que vous m'écriviez une lettre ostensible. Nous n'en sommes pas là, M, ma fille, et moi. Nous nous respectons trop pour nous demander compte, même par la pensée, des détails de notre vie. Il a été question pour moi d'aller à Paris, et il n'est pas encore impossible que mes affaires, dont M, ma fille, s'occupe maintenant, venant à se prolonger, j'aille le rejoindre. N'en dites rien au petit. Si j'y vais, je vous avertirai, et nous lui ferons une surprise. Dans tous les cas, comme il vous faut du temps pour obtenir la liberté de vous déplacer, commencez vos démarches, car je vous veux à Nohant cet été, le plus tôt et le plus longtemps possible. Vous verrez que vous vous y plairez. Il n'y a pas un mot de ce que vous craignez. Il n'y a pas d'espionnage, pas de propos, il n'y a pas de province. C'est une oasis dans le désert. Il n'y a pas une âme dans le département qui sache ce que c'est qu'un Chopin ou qu'un Grismala. Nul ne sait ce qui se passe chez moi. Je ne vois que des amis intimes, des anges comme vous, qui n'ont jamais eu une mauvaise pensée sur ce qu'ils aiment. Vous viendrez, mon cher bon, nous causerons à l'aise, et votre âme abattue se régénérera à la campagne. Quant au petit, il viendra s'il veut. Mais dans ce cas-là, je voudrais être averti d'avance, parce que j'enverrai M, ma fille, soit à Paris, soit à Genève. Les prétextes ne manqueront pas, et les soupçons ne lui viendront jamais. Si le petit ne veut pas venir, laissez-le à ses idées. Il craint le monde, il craint je ne sais quoi. Je respecte chez les êtres que je chéris tout ce que je ne comprends pas. Moi, j'irai à Paris en septembre avant le grand départ. Je me conduirai avec lui selon ce que vous allez me répondre. Si vous n'avez pas la solution des problèmes que je vous pose, tâchez de la tirer de lui. Fouillez dans son âme. Il faut que je sache ce qui s'y passe. Mais maintenant, vous me connaissez à fond. Voici une lettre comme je n'en écris pas deux en 10 ans. Je suis si paresseuse et je déteste tant à parler de moi. Mais ceci m'évitera d'en parler davantage. Vous me savez par cœur maintenant. Et vous pouvez tirer à vue sur moi quand vous réglerez les comptes de la Trinité. À vous, cher bon, à vous de toute mon âme. Je ne vous ai pas parlé de vous en apparence dans toute cette longue causerie. C'est qu'il m'a semblé que je parlais de moi à un autre moi. Le meilleur et le plus cher des deux, à coup sûr. George Sand.
Admirons avant tout comment la femme conduit sa bataille, de telle sorte qu'elle reste victorieuse nécessairement, quelles que soient les attaques ou les replis de l'adversaire. Tout est prévu, arrangé, admis, sauf de ne pas devenir l'amant de George Sand. Et du reste, elle devait bien savoir que cette Russie qu'elle feignait de redouter avait rendu les armes, que Chopin l'avait secouée de son cœur fier. Mais une telle lettre, un si rare document psychologique, mérite de figure tout entier au dossier de cet amour. L'être y devient clairement lisible, même, surtout peut-être, dans ce qu'il croit caché. On y touche l'intelligence, on y pèse la bonté un peu lourde de rechef maternel, pélicane, on y admire ce désir aux lèvres humides d'une femme de 34 ans pour l'enfant de 28, qui en paraissait moins encore et grisée par sa pureté, dont raffolait cette voluptueuse. Elle appelait ça « faire son devoir ». Le tout est de bien choisir ses mots. Elle avouait aussi il me fallait chérir ou mourir, ce qui est moins prétentieux. Disons enfin que Chopin lui-même sollicitait une belle tendresse généreuse après le pauvre petit roman tout sec qu'il venait de cacheter dans une enveloppe. Il avait besoin de soins aussi. Georges commença par l'envoyer chez le docteur Gobert, qui l'ausculta et jura qu'il n'était pas phtisique. Mais il lui fallait de l'air, de la promenade, du repos. Les nouveaux amants se mirent en quête d'une solitude. On apprit bientôt à Paris que la romancière était partie avec ses 3 enfants, Maurice, Solange et Chopin pour les îles Baléares.